Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Raccourci, dernière parole stupéfiante et véridique devant la guillotine. C'est le nouvel ouvrage d'un habitué de l'émission de Franck Ferrand, Bruno Fulini. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je dois dire que Bruno a fait très fort avec ce livre dont la couverture au reflet d'acier prend purement et simplement la forme d'un couperet. Il est toujours un peu difficile d'évoquer celle que les révolutionnaires avaient surnommée « rasoir national », celle que les avocats appelaient « la veuve ». Cet ouvrage nous offre un angle original pour parler de la guillotine.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Josiane sur l'origine des passages cloutés.
Qui ne sont d'ailleurs plus si souvent cloutés de nos jours. L'échafaud est dressé et n'attend plus que nous, hélas.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est sans aucun doute la machine la plus terrifiante du monde. Aux yeux de certaines cultures, et je pense notamment aux anglo-saxons, bien entendu, elle vient même au premier rang des objets d'épouvante. Quand vous dites guillotine, aux États-Unis, par exemple, ça fascine les gens. La guillotine, tout le monde le sait, porte le nom du docteur Guillotin, et du coup, certains ont presque fini par imaginer que Guillotin l'avait inventée. Eh bien, c'est faux, et c'est même doublement faux. D'abord, parce que Guillotin n'est absolument pour rien dans l'invention de la guillotine, ça je vais y revenir dans un instant, et puis ensuite parce que la guillotine, emblème sanglant de la Révolution française, existait déjà bien avant cette révolution. Voici ce qu'on trouve en effet dès le XIIIe siècle sous la plume d'un des poètes de la légende de la Table Ronde. Je cite une traduction moderne. « Quand l'appareil est fermé, on aperçoit un trou qui ressemble à celui du pilori. » Un rasoir d'acier, soutenu par une chaîne d'argent, tombe là-dessus si fortement qu'il tranche tout ce qui s'y trouverait placé. Un cercueil de marbre est apporté qui attend le corps du condamné. On est au XIIIe siècle. Voilà donc la guillotine décrite 6 siècles avant sa prétendue invention sous la Révolution. Mais encore plus probante que cette description, nous possédons plusieurs gravures de la Renaissance qui montrent une guillotine en fonction. La plus ancienne est l'œuvre de Pence. Elle remonte aux années 1530 et elle est suffisamment précise pour ne laisser aucun doute sur son mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement tout à fait proche de celui que nous connaissons d'ailleurs aujourd'hui même. Une autre gravure de Lucas Cranach l'Ancien et une troisième figurant dans l'Hortulus Animae de 1548 sont encore plus explicites. Et il y a une quatrième gravure, celle-là est datée de 1553. Elle est signée Aldekrefer, qui était un élève de Dürer. Et il y en a même encore une autre qui est datée de 1555. Bref, tout ça nous prouve qu'au milieu du XVIe siècle, dans les contrées germaniques notamment, une ancêtre de la guillotine était déjà en fonction. Et pas seulement du reste dans les contrées germaniques. L'histoire de Louis XII, de Claude de Seyssel, nous la montre en fonction à Genève au tout début du XVIe siècle. Un voyageur dominicain, Jean-Baptiste Labat, a vu fonctionner la guillotine en Italie. Alors, quand je dis la guillotine, une machine qui peut faire penser à la guillotine, en tout cas disons une machine à décapiter. Là on était au début du XVIIIe siècle, l'instrument s'appelait là-bas la manaya, et 30 ans plus tard, en Écosse, c'est l'abbé de la Porte qui voit fonctionner un instrument très similaire, la maiden, ce qui veut dire la pucelle. Guibert affirme par ailleurs qu'elle a été en usage en Angleterre sous le règne d'Élisabeth Ier. Et à ce propos, l'Encyclopédia Britannica confirme qu'en tout, au moins 120 condamnés au tournant du XVIIe siècle ont bien été exécutés par le moyen de la maiden, de cet ancêtre de la guillotine, d'invention et de pratique écossaise donc. Et pour finir ce sinistre inventaire, pendant que j'y suis, je reviens en France même, à Toulouse, où Puységur nous apprend qu'Henri de Montmorency, le conspirateur ennemi de Richelieu, a été exécuté par le moyen d'une doloire dont il donne la description. Alors, je vous en fais grâce, mais croyez-moi, si vous lisez cette description de Puységur, c'est point par point la description d'une guillotine. On est là en 1632, plus d'un siècle et demi avant la Révolution. Donc, aucun doute possible, la guillotine existait longtemps, existait très longtemps avant le fameux, le bon docteur Guillotin. Est-ce qu'au moins celui-ci l'aurait perfectionné ou d'une certaine manière réinventé ? Pas du tout. Pourquoi, dans ces conditions, avoir donné à la gueuse, à la veuve, au rasoir, au bois de justice, pour employer cet affreux euphémisme, le nom de Guillotin, bien, c'est ce que nous allons voir. J'aimerais d'abord, pour alléger un petit moment l'atmosphère, revenir sur la vie de notre anti-héros malgré lui, ce fameux Joseph Ignace Guillotin, originaire de Saintes, où il est né en 1738. Oh, il fait partie des bons milieux de la magistrature locale, hein, de la robe, comme on disait. Son père était avocat. C'est un bon élève. Il achève sa scolarité à Bordeaux en 1761, avant de monter à Paris, n'est-ce pas, pour y étudier la médecine. Son père ne pourvoit que très chichement à ses besoins, semble-t-il. Cependant, notre étudiant va décrocher une bourse, il devient pupille de la faculté de médecine de Paris et il obtiendra son doctorat de médecine en 1770. Alors, pour comprendre le parcours de Guillotin, il faut savoir qu'il est totalement imprégné d'idées maçonniques. Il a été initié à la loge La Parfaite Union d'Angoulême. Il devient haut dignitaire du Grand Orient de France, orateur de la Chambre des Provins, vénérable de la loge Concorde Fraternelle. Tout ça est vraiment dans l'air du temps, si je puis dire, hein, puisqu'on est dans cette époque où la maçonnerie est en train de prendre une importance considérable. C'est dans cet esprit qu'il se fait remarquer en 1788 par une brochure audacieuse qui réclame pour le tiers-état une représentativité proportionnelle à sa place dans la population. On en était très très loin à l'époque, bien entendu. La brochure est condamnée sur la forme par le Parlement, mais c'est intéressant, elle est condamnée sur la forme, pas sur le fond. Tout ça lui vaut d'être élu haut la main député de Paris aux États généraux, et par voie de conséquence, à partir de la célèbre séance du jeu de paume en juin 1789, le voilà qui siège à l'Assemblée nationale. C'est là que pour la première fois, le 10 octobre, en plein débat sur la procédure criminelle, il monte à la tribune pour réclamer la fin du préjugé d'infamie s'étendant aux familles des condamnés. Ça, c'était une avancée considérable. Il demande que la peine capitale soit la même pour tout le monde, c'est-à-dire avoir la tête tranchée, ce qui, avant la Révolution, évidemment, était la peine réservée aux personnes nobles. C'est-à-dire qu'on va aligner les condamnations vers le haut, si je puis dire. C'est que les autres condamnés étaient qui pendus, qui roués, ou écartelés, ou bouillis, ou que sais-je, en fonction des crimes qu'on avait à punir. Les amendements du sieur Guillotin sont alors ajournés, mais le 1er décembre suivant, voilà que le sujet revient à l'ordre du jour, et bien c'est ce jour-là que le docteur emporte l'adhésion de ses collègues en stigmatisant la barbarie des anciens supplices et en réclamant l'adoption pour la peine capitale d'une pratique plus humaine, unique, fiable, sans douleur, un mécanisme qui pour l'instant ne porte pas encore son nom.
Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins.
Un extrait de la bande originale du film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, sorti en 1954. On écoutait Édith Piaf avec Assaïra sur Europe 1. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la guillotine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes de retour en 1789. Vous nous parlez, Franck Ferrand, du docteur Guillotin et de la célèbre et terrible machine à tuer.
C'est le 1er décembre 1789 que Guillotin a ces mots célèbres pour décrire la procédure de mise à mort. « La mécanique tombe comme la foudre », déclare-t-il, « la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus ». Donc, ne nous y trompons pas, à l'époque, il s'agit bel et bien d'une revendication humanitaire. Il s'agit de rendre l'exécution des condamnés à mort plus rapide et moins douloureuse, et moins humiliante. Enfin, à tout point de vue, c'est une amélioration. La presse révolutionnaire aussitôt s'empare de l'idée de Monsieur Guillotin. On imagine que le docteur se serait passé de voir son nom accolé à la réforme de la peine capitale. Il faut quand même insister là-dessus. Seulement, cela, c'est vraiment trop tard. Aux yeux de l'opinion, ça y est, désormais, Guillotin est un peu l'homme de la machine à tuer. Il faudra pourtant de longs mois encore pour que le nouveau code pénal de 1791 proclame sur proposition de Le Pelletier de Saint-Fargeau, tout condamné à mort aura la tête tranchée. On pense immédiatement, évidemment, à la célèbre réplique du Spoons avec Fernandel. Hein, tout condamné à mort aura la tête tranchée. L'idée de Guillotin, donc, vous le voyez, en l'espace de 18 mois, a fait quand même de presque 2 ans, a fait son chemin. Problème, l'exécution par décollation, c'est le terme, suppose de disposer non seulement d'un bourreau très adroit, ce qui peut devenir un problème si le nombre des condamnés à cette peine vient à exploser, n'est-ce pas ? Nous sommes sous la Révolution. Mais aussi un condamné très ferme, ce qui se conçoit quand on a affaire à des nobles, très soucieux de leur honneur, de leur lignée, etc. Beaucoup moins quand on a affaire à des bandits ou à des gens comme ça qui vont pas mettre gentiment leur tête sur le billot, vous pouvez l'imaginer. Donc, évidemment, c'est un problème technique, si je puis dire, d'où la nécessité dans ce cas de mettre au point une machine dont les coups soient imparables et qui ne laisse aucune latitude aux condamnés. C'est très important parce que c'est de cette double contrainte-là qu'est née en France cette guillotine qui, vous l'avez vu, existait ailleurs depuis maintenant des siècles. Le soin de mettre la machine au point, c'est la mission du secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, le docteur Antoine Louis. Et d'ailleurs, dans les premiers mois, la machine est baptisée non pas guillotine, mais Louise, ou Louison, ou Louisette. C'est lui qui donne son nom à ce qui deviendra plus tard la guillotine. Le docteur Louis va travailler surtout à perfectionner la machine écossaise connue sous le nom de Maiden. Il la teste sur des moutons, et l'on dit, vous le savez, que ce serait Louis XVI en personne à qui on était en train de présenter la machine et qui aurait eu l'idée de tailler le couperet en biseau. Ça fait partie des grandes ironies de l'histoire, bien entendu. Finalement, c'est le 25 avril 1792 que la Louison fait ses affreux débuts en place de Grève, sous les fenêtres de l'hôtel de ville. La première victime d'une très longue liste sera un condamné de droit commun qui s'appelle Nicolas Pelletier, condamné pour avoir volé un portefeuille contenant des assignats. Peut-être pas de quoi décapiter quelqu'un, mais enfin c'est comme ça. Après encore une demi-douzaine de condamnés de droit commun, viendra le tour des politiques, dont le premier sera Louis-David Colmeau d'Angremont. Les milliers de condamnés qui ensuite se succéderont, évidemment, feront la célébrité, on peut dire mondiale, de la guillotine. Ça aura lieu, ces exécutions, non seulement à Paris, mais dans toutes les villes de la Nouvelle République. Les fabricants de guillotines, à l'époque, font de belles affaires. Vous connaissez cette anecdote rapportée par Chateaubriand à son retour d'exil. Il interroge son portier sur les atrocités commises pendant la Révolution et réponse « Ah, monsieur le vicomte, c'était le bon temps. Chaque jour, on voyait passer sur des charrettes des duchesses, des comtesses, des grandes dames avec la peau fine et le cou bien blanc. Et ces coups, on les leur coupait et on allait les voir couper. Bon, aujourd'hui, plus rien. On a retiré les plaisirs du peuple. » Pour en finir avec notre docteur Ignace Guillotin, laissez-moi vous confirmer que jamais de toute sa vie, il n'a souhaité voir fonctionner la machine à laquelle il avait eu le malheur de laisser son nom. J'aimerais aussi tordre le cou, si je puis dire, à une légende qui court sur son compte et qui voudrait qu'il ait été lui-même en danger d'être guillotiné. En fait, il n'en a rien été. Certes, il a été arrêté en octobre 1795 pour des raisons liées probablement à son appartenance maçonnique, mais à l'époque, la terreur était déjà passée. Guillotin est rentré tranquillement chez lui le soir même et il est mort dans son lit 26 ans plus tard, en 1814, à l'âge de 76 ans, bien tranquillement, si je puis dire. Dans son oraison funèbre, un de ses confrères devait déclarer « Malheureusement pour notre confrère, sa notion philanthropique a donné lieu à un instrument auquel le vulgaire a appliqué son nom, tant il est vrai qu'il est difficile de faire du bien aux hommes sans qu'il en résulte pour soi quelques désagréments. » Jolie morale, je trouve. Pendant la Révolution, une partie du peuple avait ainsi pris goût aux exécutions capitales pour assister à celles qui avaient lieu place de la Révolution, notre actuelle place de la Concorde. Les places réputées les meilleures étaient celles qui se trouvaient en bordure de la terrasse des Tuiles. Et on a vu bientôt des habitués y revenir, s'installer, ne manquer aucune séance. Certaines femmes de la halle venaient tôt avec leur ouvrage, et c'est parce qu'elles tricotaient des après-midi entières comme ça qu'on les appelait les tricoteuses. Du reste, à proximité, un gargotier avait rebaptisé sa buvette « Cabaret de la guillotine » et l'on dit qu'au dos de la carte du jour, il annonçait le programme des réjouissances. La plus grande foule aura été pour l'exécution du roi lui-même, bien sûr, le lundi 21 janvier 1793, exécution qui s'est faite après que les tambours de Santerre se furent tus dans un silence extraordinaire et rendu plus extraordinaire encore par ces espèces de bruits involontaires qui font encore ressortir le profond silence des gens eux-mêmes. On le dit assez rarement, mais Fouquier-Tinville, en 1794, ira jusqu'à faire installer une guillotine dans la salle même des audiences pour que les sentences puissent être exécutées plus vite. Il faudra toute l'autorité du comité de salut public pour mettre fin à cette espèce d'idée sanglante. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est de voir ce qu'est devenue la guillotine après la Révolution. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La grande veuve est au cœur de l'histoire. Avec vous, Franck Ferrand, nous sommes après la Révolution française et vous nous parlez de la guillotine et des exécutions au milieu de la foule.
Alors à partir du consulat, à Paris, les exécutions publiques retrouvent leur cadre traditionnel, c'est-à-dire la place de grève. Et il y a beaucoup de monde. Je vous rappelle l'indignation de Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné. « Oh, l'horrible peuple avec ses cris de hyène !» À l'époque, on est là sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830. On continue d'exécuter à 4h30 de l'après-midi. Et les peines sont criées. Hein. C'est une question d'exemplarité. Donc, vous avez beaucoup de monde à 4h30 de l'après-midi, forcément. À partir de 1832, on va reporter les exécutions à l'aube. On va y venir dans un instant avec Bruno Fuligny. Et à Paris, les bois de justice, comme on les appelle, sont déplacés vers la barrière Saint-Jacques, c'est-à-dire près de la prison de Bicêtre. Par ailleurs, c'est à cette époque que la charrette est remplacée par le fourgon pénitentiaire, quand même un peu moins humiliant. Les premières exécutions, nouvelle manière, si je puis dire, n'ont pas eu de public. Et puis, petit à petit, les gens se sont habitués. Ils se sont levés plus tôt. Et non seulement ils sont revenus en foule, mais ils ont pris l'habitude de festoyer pendant toute la nuit qui précédait l'exécution. Ce qui fait qu'on avait généralement affaire aux petites heures de l'aube à un public bien aviné. C'est le moins qu'on puisse dire. À partir de 1851, changement de régime, les exécutions ont lieu place de la Roquette afin de les rapprocher des condamnés à mort qui se trouvent dans cette prison de la Roquette. C'est là qu'a été exécuté notamment le médecin Edmond Couty de la Pommeraye en juin 1864, exécution très courue, quasi mondaine, et qui fait écrire à Jules Claretti dans sa chronique du Figaro, je le cite, on y a vu des drôlesses effrontées, venues en toilette criarde et le verbe haut, le geste assuré, riant, plaisantante avec leurs cavaliers, tout joyeux de payer gratis une première à leur maîtresse. Très nombreux seront les cris d'orfraie, j'allais dire en tout cas, les protestations, les dénonciations du climat malsain de voyeurisme qui entoure ces exécutions au public. En 1870, pour l'exécution du célèbre Tropman, la scène accueille des témoins de choix, dont Tourguenieff lui-même, nous y reviendrons tout à l'heure, et la description que donne le grand auteur russe des minutes précédant l'exécution m'ont l'air assez, comment dire, elle nous donne une idée assez juste de ce que pouvait être ces moments-là. Dehors, le bruit de la foule devenait plus fort, plus dense et plus contenu. La place renfermait plus de 25 000 personnes. Ce grondement me frappa. Je crus entendre le mugissement de la mer quand les vagues viennent se briser sur la plage. Ce n'était pas un vacarme toujours égal. Il y avait de grands tumultes, des convulsions au milieu desquelles les notes aiguës des voix féminines et enfantines s'élevaient et retombaient comme le rejaillissement des vagues en pluie fine sur ce tintement énorme. On se sentait en présence de la formule brutale d'un événement, tantôt cet élément se calmait et semblait se recueillir, tantôt il s'enflait, se soulevait, s'élançait avec un redoublement de fureur, comme s'il eût voulu tout engloutir, puis s'apaisant par degrés, se calmait pour se courroucer encore et se calmer de nouveau, toujours et sans fin. C'est pas l'image qu'on a, a priori, hein, d'une exécution. Alors on va revenir avec Bruno Fuligny sur ces exécutions, sur la forme qu'elles prenaient et sur la contenance des différents condamnés qui va varier totalement en fonction des personnalités. Bien entendu, le condamné est finalement amené ce matin de 1870. Hein, sa mise à mort est très rapide, la foule exulte et Tourguenieff de conclure « Les chevaux de la guillotine qui mangeaient en paix leur picotin d'avoine devant la prison m'ont paru être les seuls innocents parmi nous. » C'est assez joliment dit. Force est de l'admettre, la guillotine est devenue à la fin du XIXe siècle une véritable attraction. Il n'est que de voir pour s'en convaincre les places occupées par les exécutions capitales dans les réjouissances de l'exposition universelle de 1889. Ça paraît incroyable, mais parmi les spectacles auxquels le public s'est précipité en foule au moment de la grande expo de 1889, il y a un certain nombre d'exécutions publiques. On a beaucoup raconté que Guillotin, dans sa fameuse adresse du 1er décembre 1789, avait déclaré que l'effet produit par le couperet était celui d'une sensation de froid, d'une légère brise sur le col. En fait, on va voir dans un instant avec Bruno Fulini ce qu'il faut en penser, mais pour autant qu'on le sache, et après un certain nombre d'expériences qui ont pu être menées, cette vision assez idyllique de l'exécution par décollation mécanique, si je puis dire, pour parler de cette guillotine, cette vision idyllique est probablement fausse et malheureusement probablement arrangée. Bonjour Bruno Fulini.
Bonjour Franck.
Vous venez nous parler aujourd'hui d'un sujet bien redoutable. Vous avez du reste publié un ouvrage qui s'appelle « Raccourci, dernières paroles stupéfiantes et véridiques devant la guillotine ». Et la forme même de la couverture, c'est un couperet.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
De la bande originale du film Danton, sorti en 1983, une musique signée Jean Prodromité. La guillotine est au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et historien Bruno Fulini, auteur du livre Raccourci, dernières paroles stupéfiantes et véridiques devant la guillotine, paru aux éditions Prisma.
Alors Bruno Fulini, il faut peut-être revenir sur la forme même qu'a prise votre ouvrage, car le moins qu'on puisse dire, c'est que il est difficile de l'avoir entre les mains sans ressentir un petit frisson tout de même, ce couperet couleur d'acier.
Oui, c'est un livre qui affecte la forme d'un couperet, d'un simple coup de massicot, qui est une autre forme de guillotine d'un certain point de vue. C'est un livre qu'il était impossible d'illustrer, où ça aurait été insoutenable, et je voulais faire un livre qui rassemble un certain nombre d'informations, qui démente un certain nombre de légendes, qui reviennent sur les dernières paroles des guillotinés, mais qui soit pas un livre malsain, qui soit un livre respectueux de ces 200 personnes guillotinées qui ont laissé une dernière parole et dont la dernière parole a été consignée. C'est très rare en fait, puisque sur ces 200 personnes, c'est une infime partie des 50 000 guillotinés depuis la Révolution, en France comme à l'étranger, parce que la France n'a pas eu le monopole de la guillotine. Et donc grosso modo, 25 000 personnes guillotinées en France, 25 000 personnes guillotinées à l'étranger, majoritairement en Allemagne et en Suisse, et puis dans quelques autres pays de façon plus...
Faut pas oublier les anciens départements d'outre-mer, les colonies, etc.
Ah
aussi,
oui, bien sûr, bien sûr, je les compte dans la France oui. Sachant que dans les bagnes, le bourreau était un condamné, c'était un forçat qui faisait l'office de bourreau, c'était pas un bourreau professionnel. Et puis dans les colonies, il y avait aussi des protectorats qui avaient leur propre mode d'exécution. Par exemple, au Tonkin, on décapitait au sabre.
Alors justement, puisque vous parlez de mode de décapitation et de bourreau, revenons sur ce qui se passait avant la Révolution en France, puisque nous avons vu que depuis le XIIe siècle, il existait des machines à décoller un peu partout, enfin un peu partout, dans certaines régions en tout cas. Mais pour ce qui est de la France, avant la Révolution, on décapitait à l'épée, non pas à la hache. Je tiens à le préciser parce que on a de cette exécution une image souvent fausse en fait, qui vient d'Angleterre ou d'Allemagne en fait.
Oui, effectivement, la décapitation à la hache, c'est germanique, nordique. En France, c'est à l'épée et surtout, vous l'avez dit, c'était un privilège de la noblesse, tout simplement parce que c'était à la fois moins humiliant, l'épée c'est combat, noble, c'est noble bien sûr par nature, et puis c'est beaucoup plus rapide, surtout que si vous avez déjà vu une épée de justice, il y en a une par exemple au musée de la préfecture de police, c'est énorme, c'est colossal, ça n'a rien à voir avec une épée de combat.
Comme une sorte de très grande lame, très haute. Hein,
très haute, presque 2 mètres, et ça pèse très très lourd, et ça coûtait par ailleurs très cher, parce que généralement l'épée ne pouvait servir qu'une fois. Le bourreau, il fallait être physiquement très fort pour la manier, le bourreau la battait. Et bien sûr, il fallait trancher la tête d'un seul coup parce que le public ne supportait pas qu'on s'y reprenne à plusieurs fois. Et donc, ça signifiait que très souvent, eh bien, l'épée s'ébréchait. Donc, il fallait en refaire une autre et cela coûtait une fortune. C'est pourquoi, quand il a été question de généraliser la décollation, le bourreau a été le premier à écrire que ce serait une ruine pour les finances publiques et qu'il fallait trouver autre chose.
Ça, c'est un aspect totalement méconnu et passionnant, du reste. Vous dites en une fois, malheureusement, et alors on ne va pas faire la litanie de toutes les mauvaises
mauvaises exécutions, mais presque à chaque fois, moi, que je me suis penché sur les cas d'exécution capitale de personnes nobles sous l'Ancien Régime, j'ai constaté que l'exécution s'était mal passée, qu'il avait fallu s'y reprendre parfois 4-5 reprises, des horreurs, quand même.
Il y a eu de véritables boucheries, effectivement, mais normalement, le bourreau doit manier l'épée de façon à trancher nettement. C'est pour ça que Guillotin, qui aujourd'hui nous paraît comme le summum de la monstruosité, au départ est aussi incroyable que ça puisse paraître, est motivé par une forme d'humanisme. C'est-à-dire que son propos, il est double. D'une part, égalitaire, la même peine de mort pour tous et la plus rapide possible, parce qu'il a vécu à une époque où, au contraire, les condamnés à mort endurent de véritables souffrances. Alors, Louis XVI a aboli la torture avant le procès, mais au moment de la condamnation, on continue à pratiquer des modes d'exécution terrifiants. Le plus courant est la roue. Donc, lorsque vous êtes roué, c'est tout simple, vous êtes attaché sur une roue posée à l'horizontale sur un échafaud. Donc,
d'abord à une croix de Saint-André, pour briser tous les membres, et ensuite on vous colle sur la roue.
On vous colle sur la roue, et là, vous êtes littéralement pilé vif par un bourreau qui manie une espèce d'énorme barre de fer. Alors, il y a une légende familiale qui veut que Guillotin soit né près de la place à Sainte où avaient lieu les exécutions, et ce seraient les cris de douleur d'un condamné qui auraient mis à mal les nerfs de Madame Guillotin mère, et elle aurait mis bas plus tôt. Alors, c'est sûrement une légende, mais c'est intéressant, et en tout cas, ça montre aussi une chose, c'est que Guillotin, et c'est sans doute pour cela que sa famille va un petit peu désapprouver son choix d'études et de médecine, Guillotin va pas du tout suivre la voie familiale qui est celle de la magistrature, des tribunaux. Il va devenir médecin, et d'emblée, c'est un humanitaire. C'est quelqu'un qui veut soit sauver des vies, soit abréger des souffrances.
Il a une sorte de haute vocation. C'est terrible pour lui que son nom soit resté attaché à celui de la machine.
C'est d'autant plus terrible qu'en fait, Guillotin, c'est l'inventeur d'une part de la pétition nationale, car ce libelle qu'il écrit, il l'adresse directement au roi, et à l'époque, c'est une nouveauté. En 1788, c'est ça qui va le rendre célèbre. Et puis, lorsqu'il est élu député, c'est lui qui va être chargé d'aménager la salle des séances, et il est également l'inventeur de la disposition en hémicycle, tout simplement parce qu'il a observé l'intérêt des amphithéâtres des facultés de médecine. Donc, s'il s'en était tenu là, il passerait aujourd'hui pour un précurseur de la démocratie moderne. Simplement, il était très préoccupé des questions pénales, et en particulier de ces histoires de peine de mort et de ce que devaient devenir les familles des condamnés. Et le problème, c'est que lorsqu'il était en charge des séances, eh bien, il s'est mis à dos la presse parlementaire de l'époque. Et donc, il y avait de jeunes journalistes qui aimaient bien boire, qui aimaient bien rire, qui faisaient monter des femmes dans les tribunes pour s'amuser. Mais donc, ils perturbaient les séances. Lui, les a disciplinés, ne lui ont jamais pardonné. Et donc, lorsque la loi... lorsque la loi a été adoptée, ils se sont fait un plaisir de baptiser la machine de son nom et de lui prêter des propos parfaitement ridicules. Alors, j'ai regardé dans les comptes rendus précis des séances. La plupart des discours qu'on prête à Guillotin sont totalement inventés, et en particulier cette idée d'une agréable fraîcheur sur le cou, que tous les auteurs reprennent les uns après les autres, mais que vous seriez bien en peine de trouver dans les comptes rendus. C'est une pure malveillance de journaliste.
Terrible. C'est-à-dire que non seulement le pauvre voit son nom définitivement entaché de sang, mais en plus on lui prête une espèce d'insensibilité qu'il n'avait pas en vérité.
Au contraire,
du tout.
Et même à la fin de sa vie, du coup, un peu pour se rattraper, il va déployer une activité colossale.
Il meurt à la fin de l'Empire.
Il meurt en 1814, après s'être beaucoup battu pour le développement de la vaccine, donc pour sauver des vies. Et la malédiction le poursuit encore, puisque mort en 1814, ça veut dire une chose, c'est que l'année dernière, eh bien, c'était le bicentenaire de sa mort. Avez-vous vu le moindre hommage, la moindre cérémonie? Pas du tout. Ce bicentenaire a été totalement occulté, censuré. De la même façon, en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, Guillotin a été le grand oublié, le grand caché de ces célébrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de mal avec ce personnage qui, en fait, était comme l'enfer, me direz-vous, plein de bonnes intentions.
Pauvre Guillotin, il faut essayer à chaque fois qu'on a l'occasion, c'est le cas aujourd'hui, de le réhabiliter un peu. Alors, la guillotine va devenir l'instrument, le symbole d'une partie de la Révolution française, et notamment de la Terreur, bien entendu. On en dresse un peu partout de ces guillotines. C'est une machine qui est assez facile à concevoir.
Alors, c'est une machine qui a été améliorée par rapport aux vieux prototypes qui existaient en Europe. La dille allemande, par exemple, on enfonçait quand même le couteau à l'aide d'un maillet. Donc, on l'a perfectionné en faisant appel à un facteur de clavecin, donc qui en a fait un instrument très rapide avec cette lame à 45 degrés. Il y a une ironie de l'histoire, en revanche, c'est que la loi sur la guillotine est définitivement adoptée le 21 janvier 1790, c'est-à-dire 3 ans jour pour jour avant l'exécution Révolution de Louis XVI.
Justement, un 21 janvier, oui. 3 ans. C'est assez étonnant de voir que la guillotine a survécu à toutes les réformes judiciaires, si je puis dire, à toutes les réformes pénales. Elle est restée l'instrument d'exécution en France jusqu'à l'abolition de la peine de mort au début des années 1980. Alors, bien sûr, on fusillait quand même dans le cadre de la justice militaire. Ça, il faut préciser. C'est la seule exception.
On fusillait les espions ou les déserteurs, surtout en temps de guerre. On pendait en Tunisie, mais parce que c'était un protectorat qui avait ses propres lois. Mais globalement, la guillotine est restée après la Révolution, et même, ça peut paraître étonnant, sous la Restauration, quand toute cette noblesse revient en France, des familles qui ont été décimées par la guillotine, on pourrait penser qu'elle va l'abolir. Eh bien non, on conserve la guillotine. Et donc la guillotine a survécu à tous les changements de régime du 19e et du 20e siècle. En revanche, petit à petit, on l'a cachée. C'est-à-dire que son abolition en 1981, c'est le résultat d'une très longue évolution.
La dernière exécution publique, c'est Gorgoulov, en fait, hein, c'est l'assassin.
C'est Weinmann en 1939.
Ah oui,
et juste après. Peu de temps après. Et là, il y a eu de telles scènes de rue. Non seulement il y a une foule qui se comporte très très mal, mais à un moment, le cordon de sécurité est rompu par des femmes qui vont tremper des mouchoirs dans les rigoles de sang du condamné. Et donc là, c'est considéré comme insoutenable. Donc à partir de là, les exécutions auront lieu dans l'enceinte de la prison où est détenu le condamné. Et comme il y a encore dans les immeubles voisins des reporters assez malin pour grimper, pour essayer de prendre des photos, voire des films, eh bien, on installe ce fameux dais noir qui recouvrait la guillotine, ce qui fera dire à un condamné, même le ciel m'est refusé.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
La tristement célèbre machine à tuer, la guillotine, est au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, l'historien et écrivain Bruno Fulini, auteur du livre Raccourci, dernières paroles stupéfiantes et véridiques devant la guillotine, paru aux éditions Prisma.
Oui, ces dernières paroles stupéfiantes et véridiques devant la guillotine sont presque une leçon de sagesse pour certaines d'entre elles. On va y venir, hein, ces paroles de condamnés, Bruno Fulini. Un mot peut-être sur ce que l'on peut savoir de l'impression ressentie par le condamné au moment de l'exécution. Il y a eu des expériences qui ont été menées pour essayer de savoir si les gens avaient toujours leur conscience une fois décapités.
Oui, sur le principe du canard qui continue de courir, la tête tranchée, on s'est demandé si la tête n'était pas encore oxygénée pendant un certain temps, ce qui lui permettait de répondre à des questions, voire de renseigner sur l'existence d'un certain au-delà. Alors il y a eu des expériences assez scabreuses hein, dans ce sens-là, au 19e siècle.
Jusqu'au début du 20e.
Et même. Encore en 1905. La plus célèbre, c'est celle qui est tentée au moment de l'exécution de la Pommeraye, parce qu'il était médecin. Et Villiers de l'Isle-Adam a raconté cela, ça a fait un scandale, et puis on s'est rendu compte que bien sûr c'était une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam et que l'expérience n'avait pas été réalisée pour de vrai, mais elle avait été pensée.
Il y avait des dynasties de bourreaux, il faut le dire.
C'est un métier
d'exécuteur,
curieux,
devrais-je dire.
C'est un métier curieux. Effectivement, d'abord, ils ne voulaient pas être appelés bourreaux. Pour eux, c'était un terme insultant. Donc, ils étaient exécuteurs des arrêts criminels. Et puis, bon, de très longue date, et là, il faut remonter à l'Ancien Régime, les bourreaux avaient un statut à part. Par exemple, ils avaient droit de havage. C'est-à-dire que sur les marchés, eh bien, ils ne payaient pas. Ils prenaient ce qui tenait dans leurs mains.
Voilà, c'est ça.
C'est cette main qui tuait. Hein. Et donc, bien sûr, le commerçant qui voyait arriver le bourreau avec son costume caractéristique, ne se hasardait pas à lui demander quoi que ce soit. Le bourreau prenait et prenait ce dont il avait besoin pour se nourrir. C'est le droit de havage. Et il y avait comme cela un certain nombre de règles. Bien sûr, on n'épousait pas la fille du bourreau, ce qui fait que, contraint et forcé, les bourreaux ont fini par se marier entre eux à une époque où il y en avait beaucoup. Hein, chaque bailliage ou sénéchaussée avait son bourreau. Alors, dans certaines provinces pacifiques, c'était plutôt un office agréable parce qu'il n'y avait pas vraiment d'exécution capitale. Il y avait plutôt des peines d'exposition hein, qui consistaient à mettre quelqu'un au pilori. Bon, c'était plutôt paternel et pas bien méchant. Dans d'autres cas, il fallait savoir manier l'épée ou la barre ou un certain il fallait marquer au fer. Bon, et donc les bourreaux se mariaient entre eux. Donc on assiste à de véritables dynasties de bourreaux. Et donc quand on crée la machine qui va devenir guillotine, eh bien on demande un rapport d'expert au bourreau de Paris, Sanson. Et en fait, Charles-Henri Sanson, Charlot, puisqu'on va surnommer la guillotine la bascule à Charlot, lui est déjà arrière-petit-fils de bourreau, et il va y avoir encore derrière lui deux générations d'exécuteurs jusqu'en 1847. Le dernier des Sanson, en fait, va devoir démissionner parce que il était d'une part joueur invétéré et il avait mis en gage des boîtes de justice, ce qui franchement ne se fait pas. Pas de chance pour lui, il y a eu une exécution au moment où il n'avait pas encore les sous pour rembourser, donc c'est le ministère de la Justice qui a dû racheter les bois et lui a dû démissionner juste après. Et puis il y a eu un drame aussi parce que le dernier des Sanson était homosexuel. criminel. Et il avait visiblement une liaison avec le garde des Sceaux de l'époque qui s'est suicidé au moment où cette liaison menaçait d'être révélée.
Oui, ça faisait tâche, décidément. Les Deblaire sont les derniers
Alors, c'est une grande dynastie, les Deblaire, effectivement. D'abord, il y a eu deux Deblaire qui ont couvert l'essentiel de la Troisième République. Il y a eu un petit intermède. Et ensuite, les derniers bourreaux étaient des neveux ou neveux par alliance des Deblaire, donc apparentés aux Deblaire.
Ce métier, si je puis dire, avait son propre vocabulaire. Par exemple, on ne disait pas la guillotine, on dit la bécane.
La bécane, c'est-à-dire que c'est un argot de métier pour une petite corporation. Et par exemple, on ne parle pas d'exécution, on dit avoir une affaire. Alors c'est atroce comme expression, tout simplement parce que contrairement
tel
à ce qu'on pourrait...
Tel jour, je ne peux pas venir à votre soirée, j'ai une affaire.
Alors c'était plutôt le matin, donc ça n'empêchait pas. Les bourreaux avaient souvent d'ailleurs une autre activité professionnelle. Certains, par exemple, étaient typographes. Mais il faut voir que les bourreaux n'étaient pas des fonctionnaires de l'État. C'était des auxiliaires de justice qui en fait étaient rémunérés par tête, si j'ose dire. Et d'où cette expression atroce, avoir une affaire. Il y a une autre expression abominable, parce que le bourreau n'était pas tout seul, il avait des aides, et parmi ces aides, il y en avait un qui était chargé de tenir la tête du condamné au moment où il était dans la lunette, et on appelait cette aide le photographe.
Voilà, terrible, oui. On peut dire qu'il y a de l'ironie, évidemment. Il faut peut-être faire preuve d'un peu d'humour pour supporter aussi la dureté d'un tel office.
Et certains condamnés, d'ailleurs, ont fait preuve d'humour noir.
Alors voilà, nous y venons, si je puis dire, à ces paroles de condamnés. Vous nous dites 200 sur 25 000 en France.
En France, oui. C'est ça.
Donc c'est-à-dire que la plupart n'ont pas laissé de mots particuliers, ou alors on ne les a pas notés peut-être.
Déjà, réussir à parler à haute et intelligible voix dans un tel moment, c'est un exploit. Il fallait quand même un caractère extrêmement trempé. Par ailleurs, il fallait qu'il y ait sur place quelqu'un pour consigner cela. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps à éplucher les mémoires des bourreaux, les mémoires des aumôniers, parce qu'il y a des prêtres sur place, les mémoires des avocats, pour retrouver des phrases qui ont été consignées par des témoins présent au moment de l'exécution. Et dans ce cas-là, les phrases sont parfois différentes de celles qu'on trouve dans la presse de l'époque, voire complètement différentes.
Les mots ne sont pas les mêmes en fonction des époques, déjà, pour commencer, bien entendu.
Bien sûr, alors le vocabulaire n'est pas le même, et puis ça diverge beaucoup selon...
Il y a une dimension politique au départ.
Il y a la dimension politique sous la Révolution, bien sûr. Alors avec, d'une part, la noblesse, qui essaye de faire assaut plutôt d'esprit. Hein, on a parfois l'impression d'être dans le dernier salon. On est parfois grand seigneur. Moi, j'aime beaucoup le duc de Lozinhe. On vient le chercher pour l'exécuter le 11 Nivose en 2. Bon, ça c'est la date officielle révolutionnaire, sauf que ça correspond tout simplement au 31 décembre 1793. Et donc pour lui c'est la Saint-Sylvestre. Il est en train de réveillonner. Il ouvre des huîtres dans sa cellule et donc il dit au bourreau « Tu me permettras bien de finir ma dernière douzaine d'huîtres ?» Et ce que fait le bourreau. Et du coup, le duc s'adoucit et il y a ce geste extraordinaire. Il sert un verre de vin blanc au bourreau et sa dernière parole, ce sera en le tendant au bourreau eh « Prenez donc, vous devez en avoir besoin avec le métier que vous faites. » Bon, là, c'est le côté grand seigneur.
Alors, on cite toujours le cas de Madame du Barry, bien entendu.
Ah, Madame du Barry, bon, c'était une femme de plaisir. Elle n'était pas faite pour affronter un supplice public.
Elle était trop douce, la pauvre. Oui.
Et donc, elle a supplié la foule. Elle a supplié même le bourreau. Hein. C'est la fameuse phrase « encore un instant, monsieur le bourreau ». En plus, sa mort est d'autant plus stupide qu'elle était en Angleterre et qu'elle est revenue en France pour rechercher des bijoux. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Et puis, à côté de ces aristocrates, il ne faut pas oublier que la Révolution, elle a décapité aussi un certain nombre de révolutionnaires eux-mêmes. Parce qu'il y a eu toute une série de cycles, d'où la fameuse phrase de Vergniaud, qui est à la fois une phrase de condamné et une leçon, je dirais, de science politique. La révolution est comme Saturne, elle dévore ses enfants. Liberté, que de crimes on commet en ton nom, nous dit Madame Roland. Il y a un certain nombre de phrases qui résonnent comme des aphorismes politiques et qui viennent de gens qui ont été à un moment partisans de la révolution et qui ont été dépassés par cette révolution.
Il y a les cris politiques, ce seront ceux des anarchistes à la Belle Époque, par exemple, etc. Il y a aussi ceux qui pardonnent. Alors, bien sûr, le grand exemple, c'est Louis Capet, c'est le roi Louis XVI qui demande que le sang ne retombe pas sur le peuple. Mais on a, je pense à Le Surc, par exemple, le condamné de l'affaire du courrier de Lyon, qui dit « je pardonne à mes juges ».
Oui, sachant que Le Surc, on le sait aujourd'hui avec certitude, était innocent. Donc là, on est dans le cas de figure atroce hein, de quelqu'un qui est exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est la fameuse affaire de l'attaque du courrier de Lyon, une attaque de diligence pour aller vite.
Oui.
Et Le Surc a été confondu avec un des coupables. Le plus atroce, c'est que...
Il s'est trouvé le mauvais jour au mauvais endroit parce qu'il est venu témoigner, lui, pour une autre affaire chez le juge d'instruction qui l'a pris pour le coupable.
Voilà.
Il a été reconnu par des témoins, en fait.
Et puis à l'époque, il n'y avait aucun droit de grâce, aucune manière de revenir sur un arrêt de justice. Donc Le Surc a été exécuté. Et le plus atroce, c'est qu'un des vrais coupables de l'attaque monte sur l'échafaud en disant « Je suis coupable, mais Le Surc est innocent ». Ils seront néanmoins guillotinés tous les deux.
Et ça a été évidemment une des grandes affaires judiciaires de l'époque. Quels sont, d'après vous, puisque vous les avez répertoriés, ces derniers mots, ces ultima verba des condamnés, quels sont les plus marquants, les plus étonnants?
Alors, il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord, je dirais, les mots historiques, les grandes déclarations. Moi, j'ai un intérêt particulier pour celle de Gorsas. Gorsas, c'est le premier représentant du peuple qui va être exécuté. Donc là, nous sommes au début de la terreur. Et lui est un républicain, mais il appartient au clan des Girondins. Et il apostrophe le bourreau, mais devant la foule. « Pourquoi te caches-tu, citoyen Samson? Viens jouir de ton triomphe. Nous avons cru renverser la monarchie, c'est ton règne que nous avons fondé. » Et à l'inverse, vous avez ceux qui veulent défier le bourreau, défier le pouvoir et défier la mort. Alors on en trouve sous la Révolution, par exemple un aristocrate qui était le marquis de Bologne et qui va avoir cette phrase stupéfiante « Mon âme à Dieu, mon cœur au roi ». Et mon cul à la République. Et cet esprit-là, on va le retrouver bizarrement à l'autre bout de la société, chez certains malfaiteurs, chez des apaches. Les plus violents, ça va être dans les années 1909-1910, ce qu'on appelait les chauffeurs. C'est au moment où Clémenceau met en place les fameuses brigades du Tigre. On va démanteler de véritables bandes organisées de gens qui s'introduisaient chez les gens à la campagne pour leur brûler les pieds, les obliger à révéler où ils cachaient leurs économies. Et ces gens extrêmement violents, lorsqu'ils sont arrêtés, n'ont pas peur. Par exemple, Abel Pollet, dans sa cellule, voit arriver un petit peu tout le monde pour préparer l'exécution et il a cette phrase stupéfiante qu'il faut imaginer avec une espèce d'accent gouailleur. Bon, « Est-ce que vous êtes pâles les buteurs? C'est pourtant moi qui y passe ce matin. »
Raccourci, dernières paroles stupéfiantes et véridiques devant la guillotine. C'est aux éditions Prisma, sous une forme très spectaculaire. C'est signé Bruno Fulini. Un mot peut-être, parlez-nous du pauvre chat de Montbéliard.
Et oui, sa dernière parole aura été un miaulement. De quoi s'agit-il? Nous sommes en 1793 et à l'époque, Montbéliard n'est pas une ville française, c'est un comté souverain, c'est une sorte de petite enclave de l'Allemagne à l'intérieur de la France révolutionnaire. Et donc les révolutionnaires entrent dans Montbéliard, il y a un parti français à Montbéliard qui les a encouragés à le faire et eux sont tout contents de mettre fin à une micro-monarchie. Simplement, tous les aristocrates évidemment sont déjà partis, il y a belle lurette et donc il n'y a pas d'aristocrates à guillotiner. Alors c'est bien embêtant parce qu'on a fait venir de Vesoul une guillotine, on s'est donné la peine de la monter et puis il ne peut pas ne rien se passer pour une annexion et il y a un pauvre chat qui a le malheur de passer par là au mauvais moment et donc on le guillotine. Le chat n'est-il pas un animal aristocratique après tout?
Après tout.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Josiane qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande quelle est l'origine des passages cloutés et la raison de cette appellation.
Eh bien, je serais tenté de répondre à Josiane que les passages piétons, les passages cloutés, comme vous voudrez, sont en quelque sorte un signe de civilisation. Quand vous allez dans un certain nombre de cités romaines en ruine, je pense à Touga en Tunisie, tout simplement à Ostia Antica, le port de Rome, ou même à Pompéi, bien entendu, vous voyez des espèces de... comment pourrait-on définir ça? Ça fait comme des petites bornes qui sont à hauteur de trottoir et qui traversent la chaussée et qui permettent aux piétons de traverser tout en laissant le passage pour les roues des chars et pour les pattes des chevaux, bien entendu. Donc, il y avait des passages piétons surélevés, ça existait dans la Rome antique, de même du reste qu'on avait des trottoirs, vous savez, des trottoirs qui faisaient un pied et demi et qui permettaient aux marcheurs d'être à peu près à l'abri des accidents et des débordements de la circulation avec les chars. Donc, il y a quelque chose de très ancien, même d'antique, dans le passage pour piétons. Sauf qu'évidemment, avec le Moyen-Âge, tout ça va avoir tendance à disparaître, vous l'imaginez bien. Et pendant très très longtemps, il n'y a plus eu sur les grandes artères, sur les chaussées, dans toute l'ancienne France par exemple, vous n'avez pas de lieu particulier pour traverser. C'est à vos risques et périls. Et entre parenthèses, je profite de l'occasion, c'est pas souvent qu'on a cette occasion, mais pour souligner le nombre incroyable d'accidents qu'il pouvait y avoir. On parle aujourd'hui beaucoup des accidents de voiture. C'est-à-dire que les voitures hippomobiles, hein, les carrosses et autres charrettes avaient eux aussi beaucoup d'accidents, très régulièrement, et qu'il n'était pas rare qu'ils écrasent des piétons, tout simplement. Bref, il faut attendre vraiment très longtemps pour voir réapparaître des passages matérialisés. En France, on est en 1921, alors au départ, ce sont des bandes rouges qui vont bientôt être remplacées par des gros clous
cuivrée de 10 cm de diamètre. Ça, c'est en 1925 et c'est pour ça qu'on parle de passage clouté. Et aujourd'hui encore, les passages pour piétons sont communément appelés passages cloutés, alors qu'il y a belle lurette qu'on n'utilise plus de clous, bien entendu. Le piéton, petit à petit, va devenir roi, si je puis dire. Dans les années 1960, les clous sont remplacés par de larges bandes, qui d'abord étaient des bandes jaunes, qui dans les années... toute fin des années 70 sont devenues des bandes blanches. Ben ça, c'est le passage piéton tel que vous le connaissez et tel que vous le respectez, j'en suis certain.